Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot, Nicolas Villas.
En compagnie toujours de Jonathan Macardy et d'Ali Benarbia, 28e journée de Ligue 1 ce samedi, 2-2 entre Strasbourg et Lyon, victoire d'Amiens 2-1 face à Nîmes, un partout entre Dijon et Reims, un partout entre Monaco et Bordeaux. Tu voulais dire quelque chose, Ali?
Ouais, c'est bien, parce que...
J'adore ces jingles.
Non,
c'est du pur génie. Allume ton micro.
Je sais pas si
tu disais c'était un beau gosse.
Voilà, là tu peux dire
que l'allume.
Je sais pas si tu te moques de nous ou c'est.
Ah non, c'est le jingle.
Ou c'est le Rénois là qui te fait rigoler.
Le Rénois. Ah non, Jérôme Thomas.
Alors
non,
là,
il parlait
non,
même pas.
Bah, bon, René, va, parce que là maintenant les Rennais ça se respecte.
Donc, c'est vrai. Il a raison. On va parler des Monégasques et des Bordelais. Tiens, deux de tes ex.
Oh là là, quel horreur ce match.
Un partout entre Monaco et Bordeaux. Falcao qui marque le premier à la 48e, pénalty de Briand à la 65e, ça se termine à un partout. Alors on rappelle du côté de Bordeaux, c'est officiel depuis hier, Paulo Sousa est le nouvel entraîneur. Alors il était du côté de Louis II, il a assisté au match, hein, il était là en tant qu'observateur pour l'instant, l'entraîneur portugais. Un partout, toi tu disais match dur du coup.
Très franchement sur ce match... C'était compliqué parce que on s'attendait à ce que Monaco roule sur cette équipe bordelaise qui somme toute n'est pas au top. Bah si, mais pas au top de sa forme, on va dire. Rouler c'est exagéré, mais les deux ne sont pas sur les mêmes dynamiques.
Bordeaux est meilleur à l'extérieur qu'à
domicile. Au final, Monaco a été très très décevant, même si c'est vrai que notre ami Costil sort 2-3 beaux arrêts, je le trouve beaucoup plus en forme qu'à une certaine période Benoît Costil, mais franchement, c'était un peu le match des actes manqués entre le but refusé, entre le penalty provoqué par Radamel Falcao qui jouait ce soir au passage son 30e match et donc ça c'est à saluer. Parce que vu l'histoire un peu mouvementée que Falcao a eu avec l'ASM, mais franchement, ce match-là, c'était un peu compliqué à regarder parce que dans le contenu et dans la justesse technique, c'était vraiment pas ça.
Non, c'est incompréhensible qu'une équipe ou qu'un club peut être malade comme l'AS Monaco, et malgré l'arrivée de nouveaux joueurs, tu sens que cette maladie, elle est encore là, comme elle n'arrive pas à sortir, alors que tu as des joueurs qui sont intéressants. Il y a de l'alent, tu vois, Adrien Silva qui fait un très beau travail au milieu de terrain, t'as Fabregas qui est revenu, t'as Martins, t'as Ronny Lopez qui est revenu, Golovin. Malgré ça, tu sens toujours comme si encore l'équipe est très, très malade. Face à une équipe de Bordeaux qui n'a pratiquement plus de talent et qui propose pratiquement aucun projet de jeu. Or, moi, je suis content d'arriver.
Une victoire sur les 9 derniers matchs hein, pour Bordeaux.
Mais c'est pas que la victoire en plus, Nico. C'est ce qu'ils proposent.
Non, je suis d'accord.
Mais... à domicile.
Après, l'un va avec l'autre.
But,
ça oui, peut aller avec l'autre, du moins.
C'est vrai.
Au niveau il y a ni l'un ni l'autre là.
Mais non, tu peux ne pas avoir de chance de dominer. Oui. Là, non, c'est pas le cas. Et je suis content de l'arrivée de Paulo Sousa. J'espère qu'il va faire du bon travail à ce niveau-là pour ce club des Girondins de Bordeaux. Et concernant Monaco, on continue à se poser des questions. Jardine est revenu. Ben, il doit se poser encore beaucoup de questions. Et c'est pas du tout évident, hein, parce que là, même si tu ne perds pas, depuis que Jardine est venu, mais t'as du mal à vraiment à avancer et à retrouver ton jeu.
Monaco, on le rappelle, hein, qui est 17e avec 27 points, ils ont 6 points d'avance, hein, sur Dijon, qui est en place de barragiste, Bordeaux qui est 13e avec 33 points. Tiens, Yann Pécheral qui nous a fait vivre ce match sur RMC est avec nous. Salut Yann!
Bonsoir messieurs, salut.
Salut Yann.
Salut Yann.
Alors Yann, c'est vrai que c'était pas un match de dingue, t'as pas dû t'éclater toi devant ce Monaco-Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est dit en conf d'ailleurs de la part de Jardine et de Bédoué?
Ah, je trouve un peu dur quand même sur la deuxième période. Honnêtement, la première mi-temps était difficile, mais sur la deuxième mi-temps, on a vu deux buts, on a vu beaucoup d'occasions, et pas mal d'occasions monégasques. On a vu un très bon Costil qui fait que Bordeaux s'en sort avec ce match nul, mais il y a eu des frappes de Golovin, d'Adrien Silva, de Gelson Martins. Ce but refusé, vraiment toute limite du hors-jeu pour Vinicius,
ouais.
On a réclamé un pénalty du côté monégasque pour une main. Il y a ce coup du sort avec la main de Falcao qui fait que Monaco est accroché un but partout. Mais honnêtement, je vous trouve très dur sur la prestation de monégasque si on comptabilise la deuxième période. La première mi-temps est très difficile pour tout le monde.
Tant
mais la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plutôt séduisante. On a vu tellement de matchs.
Beaucoup d'imprécisions dans le dernier match.
Ouais, il a raison. Ouais, je suis assez d'accord.
Non, mais bon, on a vu de l'imprécision. On a vu des frappes qui partaient dans la lucarne et du très grand Costil pour sauver ces balles-là aussi. Donc, voilà. Le VAR qui a été complètement défaveur de l'AS Monaco. Je dis pas à tort ou à raison, je c'est pas la question, mais il y a eu 3 décisions arbitrales qui ont été jugées à la vidéo, toutes en défaveur de l'AS Monaco. Donc je suis pas aussi critique et sévère que vous sur la deuxième mi-temps de l'AS Monaco. On a vu tellement de mauvais matchs cette saison, en début de saison, de la part de l'AS Monaco, que moi, pour le coup, cette deuxième mi-temps, je la trouve plutôt rassurante et pas très inquiétante. Rappelez que depuis que Jardim est revenu, c'est 3 victoires, 3 matchs nuls, que Monaco est sorti de la zone de relégation à 6 points d'avance sur le premier relégable. Voilà. Donc, ce qu'il disait en fin de match, d'abord on a vu des Bordelais très satisfaits. Alors bon, satisfaits par le résultat pour moi, je pense, parce que c'est vrai que la prestation d'ensemble de Bordeaux, elle est plutôt timide.
Après, Yann, je sais pas, vu de la pelouse, ce que t'en as pensé, vu du stade, mais moi, il y a une entrée que j'ai pas compris, c'est celle de Chadli. Chadli, je n'ai jamais vu être bon une seule fois avec Monaco, et là, je trouve ça, son entrée vraiment catastrophique.
Ah, mais ça, Chadli, c'est on se demande toujours quoi.
Qu'est-ce qu'il fait là
depuis qu'il est arrivé, on l'a pas vu faire un bon match. Et c'est vrai que je pense que Jardim a essayé de le relancer ce soir un petit peu, et bon, ça a été très compliqué.
Tu sais, quand tu rentres, tu dis alors, même si on a été sévère, tu dis quand même que Monaco peut aller chercher le résultat. Mais quand tu le vois, franchement, sur les peu de ballons qu'il a touchés, mais
Non, mais si on compare avec l'autre entrant de l'AS Monaco, qui est Vinicius, pour le coup, il a 2 occasions, il marque un but qui est encore une fois très limite en position de hors-jeu, il met 2 frappes, il met de la vitesse, il met beaucoup d'intensité dans son entrée.
Ouais, puis il pèse, hein.
C'est vrai que Chadli, sur le côté, il est vu une fois de plus, c'est plutôt caché que ce qu'on a vu, mais c'est comme il est arrivé à l'AS Monaco comme ça, et il est comme ça depuis. Alors il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Jardim a essayé de le relancer un petit peu ce soir, mais une nouvelle fois, Chadli, c'est très compliqué, très décevant.
Faudrait demander à Sacha ce qui se passe. Parce que si on parle d'un joueur qui est quand même international, quoi, tu vois.
Ouais, enfin,
il a eu des pépins physiques de dingue, très peu joué la saison dernière. Alors, on a tous dans la tête cette idée qu'il a réussi une grande Coupe du Monde. Il a fait une action magnifique qui a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde. Mais voilà, il est sur la lignée de ces dernières saisons, Chadli. Et ben, il est très décevant. Je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup d'ici la fin de la saison. Et pour terminer avec ce qui s'est dit en zone mixte, en conférence de presse, il y avait forcément beaucoup de déceptions pour Leonardo Jardim. Très peu de joueurs monégasques se sont arrêtés en zone mixte. Ronny Lopez a fait le travail. Pour le moment, c'est tout. Et voilà, il y avait de la déception et le sentiment que ce match, ils auraient dû le gagner, les Monégasques, et que ils sont tombés sur un très bon coach.
Est-ce que t'as vu la barbe de Sankaré de près, du coup?
Dis-moi, Yann, peut-être un peu d'accord avec toi pour la deuxième mi-temps, que c'était beaucoup mieux que la première. Mais tu as bien dit que depuis que Jardim est revenu, c'est 3 victoires et 3 nuls. C'est pas dû que depuis que Jardim est revenu, depuis que c'est plus la même équipe. C'est surtout ça. Je dis pas le contraire, mais c'est plus la même équipe, surtout depuis que Jardim est revenu. Les 11 sont plus les mêmes du tout.
Mais ça change quoi? Ce soir, il y avait 4 recrues hivernales, hein. 4 recrues. C'est pas il y a 4 recrues.
Oui, non, mais je regardais moi l'équipe juste avant que Jardim. Mais
qu'est-ce que tu veux en venir où en disant
c'est
ça?
C'est pas du que Jardim, c'est que c'est, moi je
mais non, mais c'est un repère temporel.
Oui, ça je sais.
Le fait que depuis que Jardim est là, ils ont pas encore perdu.
Mais non, ça c'est une bonne chose, mais je veux dire, depuis que tu as cette équipe là, automatiquement, tu as des meilleurs résultats. Ça c'est une chose. Mais au niveau du jeu, même si parfois en deuxième mi-temps c'est beaucoup mieux, on retrouve plus du tout une équipe. On sent que cette équipe est tout le temps encore malade. C'est surtout ça.
Mais c'est une équipe sous pression, forcément.
Oui, exactement.
Qui se bat pour ne pas descendre. Donc voilà, on le voit même quand Monaco a battu Toulouse ici. Les fins de match, elles sont angoissantes parce qu'il y a cette pression de la 18e place. Mais ça, c'est inhérent à toutes les équipes qui luttent pour ne pas descendre. Et d'autant plus que c'est une équipe qui n'est pas forgée pour ça, qui n'a absolument pas les ressources mentales pour ce genre de match-là. C'est une équipe qui normalement est taillée pour aller jouer l'Europe, pour aller jouer les premiers rôles. Et la peur des fins de match à Monaco, on le voit même lors des victoires, on voit qu'à chaque fois c'est très compliqué parce qu'il y a cette peur là.
Mais je pense qu'ils vont avoir cette peur jusqu'à la fin de saison.
Évidemment, si jamais ils ne prennent pas suffisamment d'avance, alors encore une fois, il y a un bon matelas, 6 points, quand on lutte pour la relégation, mais voilà, rien n'est fait, rien n'est sauvé. C'est ce que disait Jardim. Jardim depuis. depuis que qu'il est revenu, il ne cesse de dire, malgré les victoires, malgré le fait de sortir de la zone rouge, il fait très attention à ce que personne ne s'enflamme, à ce que personne ne commence à lui parler de remonter vers l'Europe, etc., etc. Ça l'agace. Et il a raison. On le voit ce soir parce que voilà, il y a pas de quoi s'enflammer. Il faut rester très calme du côté de l'AS Monaco, prendre tous les points qui vont compter. Et puis une fois que Monaco aura 10 points d'avance sur le 18e, eh ben je pense que les sourires reviendront un peu plus.
Ouais. Merci Yann d'avoir été avec nous. Merci pour ces infos.
Merci à vous.
Bonne soirée Yann, à très vite.
Bonne soirée.
À très très vite. Ouais. Tiens, merci Yann. On l'accueille. Tiens, Stéphane, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. Salut Stéphane.
Oui, bonsoir RMC.
Merci d'avoir attendu Stéphane. Je sais que t'es là depuis un moment. Stéphane, on avait oui. Les invités, priorité au direct.
Depuis un moment, mais voilà, avant de parler de Monaco, je dis bonjour à Ali des Aubes à Montpellier. Voilà, je pense qu'il m'écoutera. Voilà, moi, je voulais revenir l'avis de Yann Pécheral. Mm-hmm. Je suis pas d'accord avec Ali et Jonathan pour dire que Monaco est malade, parce que Monaco n'est pas malade.
On n'a pas dit qu'ils étaient malades, attention. On a dit que ce soir, le match était décevant par rapport à ce que nous avait montré auparavant.
Non, mais quand j'entends M. Bellarabi a dit que Jardim a du boulot, pour moi, Jardim, c'est l'un des meilleurs entraîneurs actuellement. Bon, voilà, il fait...
Oui, mais ça n'empêche qu'il puisse avoir du boulot, Stéphane.
Donc tu penses qu'il n'a pas de travail ?
Il y a une très belle équipe. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on descend l'AS Monaco depuis le mois de septembre, qu'on va descendre
en Stéphane, je vais te couper. C'est pas poli, mais très franchement, tu nous as très mal écouté. Parce que ce qu'on a dit, c'est que justement, on était déçus du match de Monaco ce soir par rapport à ce que Jardim a déjà fait depuis qu'il est revenu à l'AS Monaco. Alors oui, pour lui, il a le retour de certains blessés.
Puis oui, c'est pas les mêmes joueurs.
Il n'a pas les mêmes joueurs, il a une équipe qui est meilleure. Mais il a quand même enchaîné beaucoup de résultats positifs. On l'a souligné. On a vu des choses dans le jeu qui n'étaient pas là auparavant depuis que Jardim est revenu. C'est pour ça que ce soir, sur ce match-là, on a le droit, et Ali et moi, nous sommes en droit d'être déçus de la performance de l'AS Monaco.
C'est exactement
ce qu'on a dit.
T'es de Montpellier ?
Oui, je suis de Montpellier, ouais.
Donc, t'as entendu ce qu'il a dit derrière Zakarian ? Il te dit, quand t'as la malchance de rejouer contre Monaco,
oui,
ou qu'il y a 8 arrivées, où c'est pas les mêmes joueurs, automatiquement, c'est pas la même équipe. Mais maintenant qu'on critique l'AS Monaco depuis le début de la saison, tu penses sincèrement que l'AS Monaco n'est pas critiquable depuis le début de la saison ?
Si, depuis le début de la saison, critiquable. Mais là, actuellement, moi, je peux vous dire, je suis pas inquiet parce que bon, on descendra pas. Je pense pas qu'on
descendra. Stéphane, laisse-moi poser une question. Stéphane.
Oui.
Toi, par rapport au match précédent de l'ASM, est-ce que t'es pas déçu ce soir de la performance collective de ton équipe?
Moi, je suis comme Yann. Première mi-temps, oui, parce que bon, c'est vrai que la première mi-temps, ça n'a pas été bon. Bon, la deuxième mi-temps, s'il n'y a pas un grand costil, bon, après, le pénalty, il n'a pas sifflé. Je peux pas dire s'il y a pénalty ou pas pénalty pour Monaco, c'est pas grave. Mais on s'est créé d'occasion. Qu'en première mi-temps, qu'on n'avait pas, quoi.
Oui, mais Stéphane, quand t'es comme ça, quand t'as la position, le classement de l'AS Monaco, tu ne peux pas te permettre d'être présent juste une seule fois.
Alors, tu sais quoi? Je vais te dire totalement l'inverse. C'est que quand t'es dans la situation de Monaco, t'es encore 3 mois, t'étais au fond du trou, t'étais dernier, t'étais à je sais pas combien de points de machin, je peux comprendre que tu sois pas là que pour faire du jeu et qu'à un moment, tu tiens un peu la peur au ventre parce qu'ils sont pas habitués à jouer ça et qu'au contraire, tu puisses assister à des matchs chiants.
C'est ce que je dis. Je pense qu'ils auront la peur au ventre jusqu'à la fin. C'est ce qui va empêcher cette équipe de l'AS Monaco de développer du jeu, malheureusement.
Mais après, Stéphane,
oui,
juste
plus,
un truc.
Ce qui m'embête, c'est que la semaine prochaine, c'est ce que veut dire Stéphane.
Je pense que je me suis probablement mal exprimé. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la première mi-temps où Monaco bafouille son football, tu vois, je pense que ce.
Mais ils sont 17e, les gars.
Attends, laisse-moi finir, mon cœur.
Cet hiver. Mais. Les mecs, ils vont jouer bien du jour au lendemain.
Mais non. Mais laisse-moi finir, mon petit cœur, laisse-moi terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que en première mi-temps, certes, il y a eu des imprécisions techniques, il y a eu un peu de peur, mais tu le sens. Que il y avait beaucoup, tu vois, il y avait la main sur le frein à main. C'est la peur, je suis d'accord. Ouais. Mais tu joues à domicile contre une équipe qui va pas très bien, en l'occurrence Bordeaux. Tu sais que t'as besoin de prendre des points. Moi, je m'attendais à un peu plus d'audace. Après, je comprends ce que tu me dis.
Mais tu sais quoi, ce que t'es en train de dire là, je me souviens des grandes années de Monaco en Coupe d'Europe. Je me souviens, l'année au Jardim, l'année qui précède le titre, Jardim se fait démonter alors qu'il termine systématiquement sur le podium parce qu'il faisait des mi-temps comme ça. Et pourtant, ils étaient dans le haut du tableau. Voilà. Oui, c'est du Jardim, c'est pragmatique, des fois c'est chiant, mais ça marche.
C'est vrai, mais parce que c'était une équipe très 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 défensive et qu'il avait peut-être pas les joueurs offensifs qu'il a eu après.
C'est très juste ce que tu as dit.
Vas-y Stéphane,
le pragmatisme de Jardim.
Je peux vous poser une question ? Comment trouvez-vous ce soir Balotelli ? Moi, pour moi, Balotelli est très très bon joueur.
Et pas mal.
Non, c'est une arrivée qui a fait énormément de bien sur le côté gauche. Ça faisait un moment que Monaco cherchait un arrière gauche. Et avec Balotouré, il est en train de leur faire beaucoup de bien. Mais ils ont beaucoup de joueurs qui leur apportent, et des joueurs de valeur. Attention, des Fabregas, des Silva en défense, Balotouré, Rony Lopez qui est revenu, qui n'était pas là, Golovin qui va un petit peu mieux.
Je reste encore sur ma fin avec Golovin, et encore ce soir, Martins qui t'apporte
énormément.
Stéphane.
Je pense que Balotouré sera le futur latéral de l'équipe de France plus tard.
Il y en a beaucoup derrière gauche, entre Fernand Mendy, entre Benjamin Mendy, entre Hernandez.
On dit pas qu'il est pas bon, mais il est très bon. Les autres sont vraiment meilleurs.
Moi j'aime beaucoup.
Merci à Stéphane, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16, un partout donc entre Monaco et Bordeaux ce soir.
Salut Stéphane.
Dans quelques instants, on écoutera, Presnel Kimpembe, qui a fait une interview sur une chaîne YouTube. Oui?
Désolé, je te fous le bordel, mais par contre, ton compatriote au milieu de terrain, Adrien Silva, moi j'aime beaucoup, et je trouve que lui, ça fait partie des joueurs qui ont vraiment apporté un peu plus de stabilité.
C'est mon vrai compatriote.
Ouais.
Parce qu'il est franco-portugais.
Ouais. Non, et puis, mais je le trouve vraiment, tu vois, sobre,
il remplace Fabinho qui est pas
là. Il apporte de la tranquillité, il est bon, hein.
Okay. C'est bon. Ouais. On revient dans quelques instants.
Tu manques du grand chef comme ça, toi.
Quoi?
Tu te manques du grand chef comme ça, tu singes le grand chef comme ça.
Stop! Non! Voilà, j'avais juste envie de le faire, c'est un petit peu.
Voilà.
Allez, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia et Jonathan McCarthy sont toujours avec nous. Je vous rappelle les résultats de ce samedi 28e journée de Ligue 1, 2-2 entre Strasbourg et Lyon, victoire d'Amiens 2-1 face à Nîmes, un partout entre Monaco et Bordeaux, on vient de l'évoquer il y a quelques instants, et puis un partout aussi entre Dijon.
Il n'y a pas eu de 0-0.
Il n'y a pas eu de 0-0, effectivement. Ah. C'est vrai que le samedi, il y a souvent 2-3 purges. Hein. Mais là, il n'y en a pas eu.
Là, au moins, il y a eu des.
Non, il n'y en a pas eu. On va écouter Presnel Kimpembe, le défenseur central du Paris Saint-Germain. Vous savez que le PSG a été sorti en 8e de finale de Ligue des Champions face à Manchester United. Et il s'est confié à une chaîne YouTube, Bruce Stories, le défenseur du Paris Saint-Germain. Quelques petits extraits. Vous allez écouter Presnel Kimpembe, qui souffre pas mal après cette élimination.
Le pauvre.
Avoir mal comme ça, je pense que... Ça y est, ça m'est trop arrivé. Pour moi, ça suffit. Je dis stop. En restant humble, on va rester affamé. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est sûr qu'on perdra encore des matchs. Mais perdre des matchs comme celui-ci, c'est terminé. Je veux plus que ça nous arrive. Va falloir relever la tête pour pouvoir passer à autre chose. Ça va être compliqué, mais il y a encore le championnat, il y a encore la Coupe de France. Et ce sont des choses qui nous tiennent à cœur aussi.
Alors, on sait que l'ambiance est un petit peu tendue hein, du côté du Paris Saint-Germain, pas mal même tendue. Le collectif Ultra Paris qui a appelé un rassemblement demain à partir de 15h devant le camp des loges. On rappelle que devant le camp des loges, il y a déjà eu des tags hein, qui ont été faits également, des tags insultants aussi. Autre extrait de cette interview de Kimpembe, alors, qui explique, toujours dans cette, avec ce même sentiment, qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui chez le défenseur du Paris Saint-Germain.
Mon explication, je dirais qu'on a eu beaucoup de suffisance. Par rapport au match aller à Old Trafford, c'était vraiment pas la même équipe du PSG. Et voilà, au match retour, ça s'est ressenti. On a perdu cette grinta, on va dire, et cette rage qu'on avait au match aller qui a pu faire la différence. Et je pense que c'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui font que voilà, on était stressé ou quoi. Je pense que c'est vraiment par de la suffisance et parce qu'on a pris, je pense, ce match à la légère.
Ouais, il dit quand même des choses fortes, hein, Kimpembe. Ouais.
Hein. Eh ben,
on a eu de la suffisance, on a pris ce match à la légère.
C'est quoi, de toutes les réactions que j'ai pu entendre, des déclarations et de la réaction lunaire de Nasser après le match ou de celle pathétique de Thiago Silva, je pense que c'est la première réaction intelligente, pleine de bon sens et pleine de maturité que j'entends. Et ça vient du joueur qui est un des plus jeunes de l'effectif, qui pourrait sentir plus coupable que les autres parce que c'est lui qui fait la main volontaire ou pas volontaire. On va pas revenir là-dessus, mais sur le penalty. Et moi, franchement. Je trouve ça assez touchant ce qu'il raconte parce que on sait que c'est un jeune joueur qui a quand même qui a eu un début de saison peut-être un petit peu compliqué après la Coupe du Monde, etc. Mais tu sais, dans le grand ménage, on a beaucoup parlé cette semaine de grand ménage à faire au Paris Saint-Germain. Je pense que Kimpembe, ça doit être un des joueurs sur lequel tu dois t'appuyer, parce que pas seulement parce qu'il est jeune, mais parce que j'aime son caractère, j'aime sa réaction et je le salue pour ça.
Ali, comment tu réagis là au mea culpa finalement de Kimpembe?
Déjà, pas vraiment, mais à coup de pas, hein, Nico. C'est pas. Excusez-moi.
C'est une constatation après un match. Le problème.
C'est de la lucidité.
C'est se rendre compte. En fait, quand tu joues des fois sur le terrain, tu ne te rends pas compte. Tu te rends compte après quand ça va mal. quand ça va bien en général, même si t'étais pas dans le coup, tu t'en rends un peu moins compte parce que ça passe plus facilement. Le problème, c'est quand un jeune, comme Kimpembe, parce qu'il est jeune, comment tu peux jouer avec de la suffisance quand t'as la chance de jouer au Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain-là, doté de grands joueurs, et que tu joues des matchs de Champions League, et que, on le sait, la Ligue 1 est importante, je le sais, c'est bien, mais la Champions League, ça dénote un petit peu le niveau, le baromètre de cette équipe du Paris Saint-Germain pendant les saisons.
Mais pour les raisons que tu viens d'évoquer. Parce que tu te balades en championnat, que t'es champion du monde, que tu...
Au contraire!
Bah si, que tu gagnes le match aller assez facilement, mais tu peux basculer dans la suffisance, Ali, justement.
C'est qu'un match aller, tu ne peux pas, tu es suffisant quand tu joues souvent les demi-finales, les finales de Champions League, et que là, en huitième, tu bats 2-0 Manchester.
Oui, mais eux, leur quotidien, c'est la Ligue 1, Ali, en attendant.
Mais même si le quotidien, c'est la Ligue 1, parfois même en Ligue 1, ils ont de la suffisance. C'est pour ça que des fois, ils n'arrivent pas complètement à exploser les équipes. Si ils passaient leur temps à écraser comme un rouleau compresseur la Ligue 1, la preuve en est, les deux seuls matchs qui étaient plus ou moins durs pour cette équipe du Paris Saint-Germain dans les deux dernières saisons, c'est face à qui? Simplement à Lyon, au Groupama Stadium. Et les deux fois, ils les perdent. Ça veut dire que même en Ligue 1, soi-disant avec une équipe de Lyon qui n'est pas non plus exceptionnelle, tu perds quand même ces deux matchs. Donc, tu ne peux pas être suffisant, sachant qu'en Champions League, tu t'es même pas qualifié pour les quarts ou les demi-finales.
J'essaie de trouver une explication. Donc, je veux dire par là, ce que tu dis.
Parce que t'as bien défendu à Manchester United et que t'as profité des contre-attaques, de bien garder le ballon, que t'étais serein, mais le match retour, tu dois être un rouleau compresseur contre Manchester United. Tu ne joues pas contre Manchester United. Tu veux te qualifier pour l'écart. Tu t'en fous de Manchester United qui leur manque 10, 11 blessés. T'es le PSG, tu joues chez toi, écrase l'adversaire jusqu'à physiquement, dans les duels, techniquement.
Prépare ton quart de finale de dorénavant.
Je comprends pas que même tu prends un but dès le début, c'est pas un problème. Mais après, tu le rentres dedans, tu dans tous les duels, tu les étouffes, tu gardes le ballon.
Mais là, Kimpembe, il dit pas l'inverse, les gars. Il est simplement en train d'expliquer.
Mais si.
Non, il est en train de te dire.
T'es suffisant.
Oui, mais justement.
Non, mais c'est ce qu'il dit.
Tu peux pas. Bah, c'est ce qu'il dit, Ali. C'est tout ce qu'il est en train de te dire, c'est ce qu'il t'a dit avec le micro.
Mais tu ne peux pas te permettre, avec tout ce qui s'est passé de façon Paris Saint-Germain, et avec la pression que t'as de Champions League, de pouvoir être suffisant.
Non, mais en fait, attends, Ali, écoute. Ali, écoute-nous. Vous dites la même chose, sauf que toi, tu critiques le fait. Mais en fait, vous êtes sur la même. Moi, j'ai une question à te poser. On a beaucoup entendu Jérôme. On sait que t'as joué au PSG, que c'est quand même un des clubs que t'apprécies. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de tout ce qui s'est dit après le match, tu sais, avec Patrice Evra, avec les incidents? On n'a pas eu ton avis.
Je parle jamais de ce qui se passe en dehors du football. Ce que fait Patrice Evra ou Penfour Calaisois ou même Eric Cantona, quoi. Ça, c'est leur problème.
Oui, t'as dit, on s'en tape, non?
Faire.
Alors de ça, non,
mais
ok,
mais c'est pas le rapport avec le match.
Non, mais c'est pas ça, Jonathan.
C'est un épiphénomène, t'as un mec qui est en tribune qui
Jonathan, veut juste savoir.
Jonathan,
m'engueulez pas, je voulais juste savoir.
Faire le branquignol dans les tribunes ou ne pas parler du tout et se la fermer ou quoi. Ça, c'est le problème de chaque personne s'y respecte le football, s'y respecte les clubs. Ça, c'est autre chose. Mais sur le terrain, quand je vois les amoureux du Paris Saint-Germain, quand je vois les amoureux du football, tout court, quand je vois les anciens joueurs du PSG, et quand on parle du Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont gagné avec le Paris Saint-Germain, des Coupes d'Europe, qui ont gagné des matchs de Coupe d'Europe contre Barcelone, contre le Real, où c'était des joueurs qui se défonçaient. On prend l'exemple d'un joueur comme Laurent Fournier, qui du début jusqu'à la fin sortait avec des crampes. Est-ce que t'as vu un joueur sortir avec des crampes du Paris Saint-Germain? Je suis désolé, j'en ai vu aucun. Comment tu peux sortir alors que tu sais très bien que tes dirigeants, les premiers, les matchs Champions League sont les matchs les plus importants, beaucoup plus que les matchs Ligue 1, on le sait très bien, et que tu dois te qualifier, et c'est même pas ça, c'est même pas Manchester United, c'est même pas Barcelone ou Real, c'est de se rapprocher de la Ligue 1. Et là, tu ne peux pas te permettre de pouvoir jouer, ni gérer, ni quoi que ce soit quand tu joues les matchs Champions League.
Alors, on vous attend en tout cas, supporters du Paris Saint-Germain au 32-16 pour revenir sur ces déclarations de Kimpembe. Il y a beaucoup de réactions déjà sur le hashtag RMC Live. Il y en a pas mal qui finalement croient pas trop aux déclarations de Presnel Kimpembe. On a Thomas qui nous dit « Ces déclarations sont hallucinantes. Elles visent clairement le coach. Déjà, pas de mise au vert et pas de pression. Tourelle s'est craché et il faut aussi le dire », dit-il. Benjamin est supporter du PSG. Il nous a appelé au 32-16. Salut Benjamin.
Salut à tous, bonjour à tous.
Salut Benjamin.
Alors Benjamin, comment t'as réagi toi en entendant Kimpembe?
Moi, j'ai été halluciné. C'est hallucinant. Je trouvais ça hallucinant, comme tous les ans au PSG après chaque élimination. De toute façon, la réaction des joueurs, Enfin, cette vidéo est ridicule. C'est-à-dire que on est à deux jours. Enfin, je pense que Kimpembe souhaite juste calmer la colère des supporters. Mais est-ce qu'il croit vraiment ce qu'il dit? Moi, personnellement, je le pense pas. Tous les ans, il y a deux ans à Barcelone, on a eu un énorme message de tous les joueurs sur les réseaux sociaux. Oui, excusez-nous, l'année prochaine, on sera de retour, on fera un beau parcours. Voilà, donc rebelote. L'année dernière, après Madrid, après l'aller, ils ont tous mis des messages sur Instagram. Je sais pas si vous vous souvenez, Rabiot, Kimpembe, ouais. Cavani, Di Maria. Ils ont tous dit oui, nous sommes ensemble, nous sommes solidaires, nous sommes le PSG. Au retour, ils ont fait une prestation honteuse contre Madrid. On a été la risée de l'Europe. Et là, après ce match aller où ils ont bien joué, mais face à une équipe de Manchester qui est mille fois inférieure à l'équipe parisienne, tous les joueurs du PSG, excusez-moi l'expression, mais ont perdu tout leur courage. Ils avaient plus de fierté. Il n'y a eu aucune solidarité sur le terrain. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur fierté pour se racheter, pour calmer la colère des supporters qui en ont juste marre de cette équipe de Branquignoles qui chaque année nous fait rêver à enchaîner 25 victoires, je sais pas combien, 15 victoires d'affilée en Ligue 1. Et on avait besoin de un match cette saison. C'était en huitième de finale avec les champions. Et au Parc, ils ont fait une prestation honteuse. Donc moi, j'ai trouvé cette vidéo honteuse, comme en réalité toute la communication du PSG avant chaque match et après chaque match avec les champions, avant chaque gros match avec les champions. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le retour, on a eu ce fameux « Ensemble, on va le faire ». Donc toute la communication du PSG s'est basée là-dessus.
Mais pour toi, c'est une opération de com', Benjamin, ça, c'est ça? Tu vois ça comme
Comment?
Ça tu vois ça comme une opération de com'?
Oui, clairement.
Alors, petit détail pour ceux qui nous écoutent à la radio. Vous pourrez d'ailleurs aller le voir sur le site rmcsport.fr, ces petits extraits. Mais c'est vrai que c'est très très bien monté. C'est en noir et blanc, c'est des belles images.
Tu sais, après maintenant, les chaînes YouTube, c'est en général, c'est toujours...
Non, mais autant faire un entretien qui soit bien monté. Quoi. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, c'est bien foutu, quoi, la forme.
De toute façon, les paroles, moi, c'est ce que je vois souvent, les paroles ne servent à rien. C'est le carré vert et l'attitude.
Enfin, le rectangle, parce que le carré, tu vas être emmerdé. Hein.
Ouais. L'attitude, en fait, c'est ce que tu donnes du début jusqu'à la fin, et ce qui démontre un petit peu un club de football en général, c'est l'habitude que tu vas lui donner de gagner tous les matchs, l'envie de gagner, et tant que le Paris Saint-Germain n'arrivera pas à voir ça, de vouloir gagner tout le temps, même que c'est petites équipes ou des grosses équipes, c'est ça le plus important.
Ali, allons jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait que ce Paris Saint-Germain n'a pas cette habitude et pas ce caractère-là? Donc moi, je pense que, je vais pas revenir sur ce qu'on a dit, mais la faute pour le fautif principal et celui qui doit dégager en premier, c'est Nasser. Mais après, c'est quand tu recrutes les joueurs.
Ça n'a rien à voir avec Nasser.
Alors, j'ai fait un long avis tranché hier là-dessus. Attends, laisse-moi finir. Mais par contre, quand tu recrutes les joueurs, le problème, c'est bien beau d'aller recruter des joueurs qui sont scintillants comme Neymar et Mbappé. Mais quand tu regardes ton effectif, il te manque un taulier par ligne.
C'est pas Thiago Silva qui va recruter ce taulier, c'est pas Nasser.
C'est Nasser qui choisit le directeur sportif, c'est Nasser qui arbitre pas entre Antero et Thomas Tuchel, c'est Nasser qui fait que ton équipe, t'as une équipe d'enfants gâtés. Quand il y a Thiago Silva, quand il y a Serge Henry qui font des conneries, c'est Nasser qui va les câliner. Donc si Nasser, c'est le fautif, faut qu'il dégage.
Voilà, c'est pas, non, ça n'a rien à voir avec Nasser.
Après, c'est mon avis.
C'est pas ça, Jonathan.
C'est pas Nasser Al-Khelaifi, c'est qui alors, Ali? Vas-y. Non, mais je te pose vraiment la question. Qui recrute?
Dans le domaine sportif, des gens qui recrutent. Tu peux avoir Antonio Henrique, tu peux avoir Tuchel, c'est dans le domaine footballistique. Nasser ne va pas choisir un joueur. Loin de là.
Nasser influe négativement sur le comportement du groupe de par sa gouvernance qui est beaucoup trop proche des joueurs.
Vrai.
Et regarde ce qu'il a fait avec Lucas Aurier. Aurier, il insulte le club, il insulte son entraîneur, il insulte le club, et qu'est-ce qu'il fait? Il est récompensé par une place de titulaire en Ligue des Champions et une proposition de prolongation. Vous rendez compte? Nasser, il est dépassé, c'est un babysitter, faut qu'il arrête maintenant. C'est plus possible.
Ça n'a rien à voir avec Nasser.
Quand
Laurent Blanc prend la décision de s'y
venir. Alors aussi, attends. Je te coupe, mais Nasser, qu'est-ce qu'il décide avec Laurent Blanc? Il décide de le prolonger à prix d'or pour 6 mois après le virer. Vous vous rendez compte, on va où là? Ce mec, c'est un incompétent notoire. Alors je sais qu'il a il occupe plein d'autres postes, il est président de la fédé qatarienne de tennis au Qatar, etc. Mais Jonathan, président d'un club de foot, c'est un métier.
C'est pas une question de président. Les décisions, c'est un groupe qui les prend, c'est pas Nasser.
On sait que c'est Kassi, oui.
Non, c'est même pas ça. J'ai parlé, moi, avec des propriétaires de clubs en Angleterre. Est-ce que tu penses que c'est le propriétaire, ce propriétaire d'argent, prend les décisions de prendre ce joueur ou pas? Loin de là.
Mais Nasser, du moment où
les échecs s'accumulent, le mec qui représente l'institution, c'est normal. Surtout si c'est un directeur exécutif.
Et il est pas
dans
propriétaire.
Ce cas-là, c'est lui le fusible, non?
Non, le problème, c'est quand tu as beaucoup de changements dans un club et qu'il n'y a pas une continuité, c'est beaucoup plus dur. Quand tu changes souvent d'entraîneur, c'est ce qui t'arrive au PSG.
Non mais attends, là c'est même pas juste des entraîneurs. T'as eu 3 directeurs sportifs en 3 ans, 3 coachs en 4 ans. Au bout d'un moment, faut se rendre compte que le problème il vient peut-être dessus.
Donne-moi le directeur sportif, vas-y.
Bah il y a eu notre ami, il y a eu notre ami Leonardo.
En gros, Olivier Letta n'a jamais.
Et bah alors tu te rends compte. Et bah ça aussi. C'est une grosse erreur de Nasser qui n'a pas été foutu de nommer quelqu'un après le départ de Leonardo et qui a longtemps laissé le flou avec Olivier Letta toujours directeur sportif adjoint. Ça c'est une erreur de gouvernance et c'est de l'incompétence notoire.
Le Qatar récupère le club. Arrive un certain temps, tu penses que tu peux gérer le club comme Paris Saint-Germain, hein, comme tu peux le faire à Doha. Tu penses que c'est possible et ils ont toutes les connaissances, que ça soit les Mendes, les Mourinho ou qui tu veux, pour demander leur avis. Mais ça ne suffit pas. Il te faut quelqu'un sur place qui est tout le temps là, ce que n'a pas eu le PSG après Leonardo.
Regarde, on revient sur les déclarations de Kimpembe. On remercie Benjamin qui nous a appelé au 32-16. On accueille Tariq, autre supporter du PSG. Salut Tariq.
Salut l'équipe.
Salut Tariq.
Bon Tariq, comment t'as réagi toi après les déclarations de Kimpembe là?
Il a vraiment joué en tout cas.
Moi je pense que c'est une posture qu'il a qui est pas la bonne. Je pense qu'il se trouve un petit peu des excuses parce que moi je sais pas si vous avez vu les images de Thiago Silva à la mi-temps dans le tunnel du parc qui parle avec
Kimpembe,
etc. Et vous vous rendez compte que il leur demande de jouer le contre. Il demande au reste de l'équipe c'est grave
c'est pas vraiment ça Tariq, il dit sur les comptes en gros on peut les tuer. En plus on n'entend pas toute la conversation, mais il dit regardez sur les comptes il y a beaucoup d'espace, on peut les avoir. Mais
lui aussi ce joueur c'est un sketch aussi, Thiago Silva de toute manière.
Ouais, qu'est-ce c'est que spécial quand même au Parc des Princes de parler de jouer en contre, etc. En plus contre une équipe B ou C de United, c'est hyper space.
Ah mais Tariq, faut arrêter de dire B, C, c'est un champion, c'est une équipe de Champions League, c'est une équipe de Manchester United, c'est un effectif.
Non Ali, alors il y a des joueurs, ils ont été obligés d'aller floquer son maillot à la boutique du PSG tellement il a pas l'habitude de jouer.
Quoi,
ils avaient 10 absents majeurs, 10 titulaires absents.
Bien sûr,
mais c'est quand même une équipe en carton pâte.
Ces
hein,
absents
ce
majeurs qui il y a pas longtemps jouaient et n'étaient pas trop bons. Mais quand tu prends l'exemple qu'en début de saison t'as un Lukaku qui était costaud, qui était bon et qui a disparu. Ali. C'est le même Lukaku qui revient et qui te met les deux buts.
Ali, Manchester, il faut là parce que j'ai l'impression que on n'a pas vu le même match, mais Manchester a été atroce.
Mais qui a dit que Manchester était bon?
A été bidon. C'est pas qui leur a offert le match.
Non mais attends, n'oublie pas Jonathan, c'était même équipe de Manchester. Elle joue contre Barcelone. Elle a le gardien Ter Stegen qui lui repousse. Mais t'as juste à la pousser. T'as le Piqué qui fait une passe à rentrée où tu pars tout seul, rebelant. Et t'as Vidal qui se retourne ou l'anglais qui se retourne au niveau 18 mètres et que tu prends un penalty et le match il est exactement le même problème. La différence c'est que sur le continu du Paris Saint-Germain, je m'en fous du Manchester United sur le coup, c'est le PSG coup.
On est d'accord, on s'est mal compris. Oui,
c'est
bien
le PSG le problème qui a pas été le rouleau. Donc
sûr,
si tu n'es pas capable, on s'en fout, même s'il serait passé le PSG. Moi je t'aurais dit, ça ne sert à rien qu'il passe. C'est qu'ils sont pas prêts, encore une fois, à aller dans le dernier carré. Parce que si tu n'es pas capable de gérer un second match là, parce que tu peux terminer aller à 2-1, tu perds 2-1, mais t'es qualifié.
Ouais.
Mais ça voulait rien dire.
Non, bien sûr.
Tu ne montres pas encore que tu n'es pas capable d'aller plus haut.
Tariq, quand t'entends Kimpembe dire que finalement, les Parisiens ont fait preuve de suffisance avant ce match retour, comment tu réagis, toi?
Moi, je pense pas. Je pense vraiment que c'est mental. Je pense qu'il se trouve des excuses, mais je pense vraiment que c'est mental.
Il y a
deux semaines de ça, j'avais vu le match PSG Nîmes avec Ali, qui m'avait gentiment invité au Parc des Princes.
Ah, j'avais promis.
Et Ali me l'a dit deux fois. Il m'a dit si Paris se prend un but dès le début, tu verras qu'ils sauront pas trop comment gérer le match. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que ça a été mental. Il y a eu des choses qui leur en sont passées par la tête.
Tariq, à l'image, c'est pour ça que je le critique beaucoup, mais c'est à l'image de Thiago Silva. Ça a été un sketch, son match. Oh, s'ils vont en prolongation, je te jure, Thiago Silva, tu le retrouves à défendre dans la tribune. Le mec, il a joué, mais quasiment au niveau de Buffon. Mais c'est pas possible.
Ouais, mais il n'y a pas que Thiago Silva.
C'est censé être le tenir de ta défense.
Jonathan,
il a joué au niveau de Buffon, presque.
Il n'y a pas que Thiago Silva. T'es au milieu de terrain, t'as des attaquants.
Alizé, ça, c'est être le leader de la défense. Non, mais t'as cette capacité. C'est quand tu sais l'importance qu'a un défenseur central dans ce moment-là.
Joueur,
comment ça se fait qu'il joue aussi bas? La connerie, il a déjà fait à Barcelone, il refait la même connerie.
Mais tu n'as pas
un problème, quoi.
Tu n'as pas un leader.
Vous avez fait attention en première mi-temps, ils se prenaient la tête, Alves et Silva, savoir comment jouer, s'il fallait accélérer le jeu, poser le jeu. Eux-mêmes, ils étaient pas en accord sur le terrain. Je sais pas si vous avez fait attention en première mi-temps.
Ça m'a échappé, je dois t'avouer.
Oui, non, parce que chacun veut démontrer que c'est lui le patron. Daniel Alves veut montrer que c'est lui le patron. Même Mbappé a commencé à dire calmez-vous. Mais attends, t'as pas besoin de me faire les bras et calmez-vous. Montre sur le terrain avec le ballon ce qui est capable. Parce que quand tu glisses trois fois en première mi-temps, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite changer tes crampons.
Des gros problèmes de tenue de route, Kylian, sur ce match, hein.
Merci à Tariq de nous avoir appelé, au 32-16, hein. Vous allez retrouver l'ensemble de ces déclarations sur le site rmcsport.fr, donc de Kimpembe, qui explique que les joueurs du PSG ont fait preuve de suffisance, hein, dans ce huitième de finale de Ligue des Champions. On sera avec, Julien Laurence et David Lortolari dans quelques instants. Ils sont passés pas mal de choses en première ligue. Tiens, Manchester United, justement, demain, ils ont un choc terrible à 17h30 face à Arsenal. Manchester United qui peut revenir à hauteur de Tottenham à la troisième place de la PL, on en parle juste après ça.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Jonathan
McCarthy qui se gare. Parce que je lui avais dit qu'il avait un
beau
sourire.
Ah ouais, c'est vrai, t'as dit
alors
ça.
Il sourit.
Ben oui, c'est vrai, quel allumeux celui-ci, tu sais. Avec des gens, un mec, tu lui dis t'as des jolies fesses, il va rouler du cul dans les couloirs avec une journée.
Il est complètement tard, il est avec mes dents toutes tordues. Va. Julien Laurence nous rejoint car il y avait des chocs en première ligue. Il y en aura d'autres demain également. Comment va Julien Laurence qui nous a rejoint?
Salut à tous, salut Nico, tout va très bien, merci.
Bah, il va bien, je pense samedi soir, il va pas la teuf là, on sait très bien.
Il fait toutes les mêmes vannes, tous les vendredis.
Le mythe de répétition, mon
frère. Et samedi soir, c'est incroyable cette histoire.
Bah, c'est samedi soir.
Non, demain, j'ai gros match demain, donc je vais me
17h30, on va y revenir, bouge pas, sur le match de 17h30 demain, qui sera d'ailleurs à suivre sur RMC Sport 1, entre Arsenal et Manchester United. Avant, Manchester City qui a battu Watford 3-1, qui met une grosse pression sur Liverpool, qui demain à 13h va jouer face à Burnley, hein, Julien.
Ouais, 4 points d'avance. On a beaucoup parlé en Angleterre cette semaine de l'avantage de City, encore une fois, de jouer avant Liverpool. C'était donc le cas déjà lors de la dernière journée de Premier League. C'est encore le cas lors de cette journée. Et tu as raison, hein, 4 points d'avance maintenant pour City sur Liverpool. Pression demain, grosse pression pour Liverpool qui reçoit Burnley en début d'après-midi. Un triplé de Sterling aujourd'hui contre Watford, une première mi-temps plutôt moyenne de City, j'ai trouvé, et puis après ils ont accéléré en seconde période, même si le premier but est un peu...
Alors c'est quoi ce premier but en fait? Je vous ai écouté un petit peu, je vous ai regardé.
Ouais, c'était un peu bizarre, ouais.
C'est-à-dire que le défenseur touche le ballon avant Sterling.
Ouais.
Donc c'est pour ça que l'arbitre accorde le but?
Alors au départ, le juge de touche lève son drapeau en fait, et visiblement il n'avait pas vu que le défenseur avait touché le ballon en premier. Donc,
mais est-ce que tu penses que l'arbitre central a réussi à voir que le défenseur touche le ballon avant?
Bah, je suis comme toi, je suis pas persuadé. Après, peut-être qu'il l'a vu, peut-être qu'on lui a soufflé.
Parce que s'il le voit pas, normalement, c'est vrai que tu siffles hors jeu.
Tout à fait, c'est vrai.
Bon,
c'est vrai qu'ils ont bénéficié. Après, je pense qu'ils étaient quand même trop forts et qu'ils, tu vois, ils auraient quand même remporté la rencontre. Sterling marque son triplé en 13 minutes. Seulement son deuxième triplé de sa carrière d'ailleurs, hein. C'est le premier, c'était en 2015. Pour Sterling, c'est rare ces triplés, mais c'est vrai qu'il est dans une forme assez incroyable cette saison. Et c'est encore une grosse victoire pour Pep, et Pep qui a à la fin de la rencontre réagit sur les rumeurs qu'il envoyait à la Juventus de Turin, des rumeurs qui venaient d'Italie depuis vendredi, en disant que c'était n'importe quoi, mais surtout en disant qu'il se voyait bien rester, ou qu'il pourrait rester même encore plus longtemps que son contrat actuel à City, ce qui est intéressant, parce qu'il avait prolongé en mai dernier jusqu'en 2021, ça ferait donc 5 ans à City. Il n'est jamais resté aussi longtemps dans un club, il avait fait 4 ans à Barcelone, 3 ans au Bayern.
Mais alors attends Julien, les histoires là de fair play financier, alors on sait qu'en ce moment là ils ont les flics aux trousses là.
Ouais, ils ont un peu le feu aux fesses, ouais.
C'est un peu compliqué. Lui, pour eux. Ça peut pas impacter sur l'éventuel avenir de Guardiola à City?
Alors on verra. Lui dit qu'il a aucun doute sur le fait que le club se soit bien comporté, qu'il y a aucun problème. Le club lui aussi a l'air assez confiant sur l'issue des enquêtes, etc. et des et des du dialogue avec l'UEFA à ce propos-là. Faudra voir. Bien sûr, hein, que ça peut impacter sur son avenir à lui, sur l'avenir du club aussi. Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup ils peuvent plus recruter ou s'ils sont exclus la Ligue des Champions par exemple. Tout ça peut forcément avoir une incidence. Après, pour l'instant, il a confirmé qu'il était heureux au club et qu'il se voyait bien même rester, comme je l'ai dit, un peu plus longtemps après 2021.
Je peux te le confirmer. J'ai discuté avec lui récemment, juste après le match. Il se sent très très bien. Il a tout pour bien travailler.
C'est vrai.
T'as parlé avec Pep il y a pas longtemps, toi.
C'est Ali de Benarbia quand même.
Non, c'est une légende à Manchester City.
Bah oui, je sais. On a fait un petit truc sympa.
Juste pour le match, pas dans le match là, Monaco Chelsea. Manchester City Chelsea.
Ouais. Un copain quoi, Pep.
Non, il m'a dit t'aimerais bien jouer dans cette équipe. Tu te régalerais. Je dis oh, même sur une jambe.
Facile. Non.
C'est une facile. Même sur une.
Bah, Ali, ils ont perdu De Bruyne si tu veux.
Mais malgré ça, regarde. Là encore, t'as David Silva qui a fait encore un match aujourd'hui. C'est un régal.
Et alors demain, Julien, 17h30, Arsenal-Manchester United. United qui peut revenir à hauteur de Tottenham à la 3e place au classement. Et alors Tottenham. Alors c'est incroyable ce qui leur arrive en ce moment aux Spurs. Alors oui, il y a la qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait 4 matchs d'affilée sans victoire en Première Ligue pour les Spurs qui perdent 2-1 à Sutton cet après-midi. Ça c'est dingue ça.
2-1. Surtout quand tu vois la physionomie de la rencontre où ils ont été vraiment excellents en première période, ils peuvent facilement rentrer au vestiaire en menant 2-3-0. Ils mènent que 1-0, but de Harry Kane, le 200e de sa carrière, club et pays confondus en 349 matchs, ce qui est plutôt un sacré record. 369 matchs, pardon. Ouais, surtout à son âge. Et tu te dis bon voilà, il contrôle le match même à l'extérieur contre une équipe de Southampton qui a gagné qu'une seule de ses 6 dernières rencontres en première ligue. Et puis en seconde période, ils arrêtent de jouer complètement. Pochettino les a accusés après le match d'avoir été arrogants. Il a eu des mots très forts contre ses joueurs en disant on est une équipe de Champions League, on peut pas se comporter comme ça, c'est pas normal. En disant il était très inquiet sur effectivement l'attitude et le comportement de ses joueurs après la pause. Et tu perds 3 points qui pourraient coûter très très cher en fin de saison, parce que comme tu l'as dit, si Chelsea gagne ses 2 matchs en retard, donc celui de ce week-end et puis celui qui devait jouer quand ils ont joué la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City, il leur passerait devant. United peut leur passer devant. Si Arsenal l'emporte contre United demain, il reviendrait à 1 point avec toujours United et bien sûr encore une fois Chelsea encore plus dans la course également. C'est vraiment très compliqué pour Tottenham. Mais ce qui est toujours bizarre avec eux, c'est que ça arrive dans... À chaque fois, il y a une bonne nouvelle. Donc, par exemple, là, il y a eu la qualification en Ligue des Champions. Très bonne nouvelle. Pochettino nous dit après le match, c'est vraiment une saison spéciale pour nous. Les gens doivent se rendre compte que on fait quelque chose de très spécial en ce moment. Et bim, ils vont perdre à Southampton. Ils annoncent enfin le nouveau stade qui va s'appeler le Nike Stadium. Voilà, au mois d'avril, qui sera enfin prêt. Tout le monde l'attend depuis le mois d'août. Bim, deux jours après ou un jour après, ils prennent cette défaite à l'extérieur. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un truc bien, un truc vraiment pas bien du côté de Tottenham. C'est assez incroyable et assez inquiétant comment ils peuvent passer d'être très bons à être très médiocres dans le même match.
Ouais. Et ils sont comment du coup là du côté d'Arsenal là avant ce choc là avant United? On rappelle, ils restent sur cette défaite face à Rennes en Europa League.
Ouais, la défaite à Rennes, le match nul contre Tottenham à Wembley le week-end dernier avec ce penalty raté par Aubameyang repoussé par Lloris à la dernière minute du match qui leur aurait permis de l'emporter et de revenir à ce moment-là à 1 point de Tottenham. Donc c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée là sur les 2 derniers matchs pour Arsenal. Après, à domicile, c'est vraiment excellent à part la défaite contre City lors de la première journée de championnat. Ils sont vraiment très très bons en championnat à domicile. Ils ont battu Chelsea, ils ont battu Tottenham, ils ont fait match nul avec Liverpool dans un match qu'ils auraient dû gagner. Donc c'est vrai, c'est très solide en championnat à domicile. Il faudra l'être encore demain. Ils avaient perdu contre United en Coupe d'Angleterre il y a quelques semaines, où ils avaient été notamment beaucoup pris en contre-attaque. Donc faudra voir si demain Unai Emery a un petit peu changé son approche peut-être et se méfiera un petit peu plus de cette façon de jouer de la part de United.
Julien, merci d'avoir été avec nous.
Ciao Julien.
Merci, avec plaisir.
À demain et puis bon dimanche mon gars. Il va être chargé.
Ouais, vous aussi. On va se régaler.
De Leeds aussi.
Oui.
Et le but dans
le but
de
Brighton.
Ah ouais, on en a pas parlé. Le but de Knockaert, il est
somptueux.
Il met une lulu le mec.
Non, et puis au bon moment, magnifique.
Ouais, magnifique.
Et dans un gros derby en plus, il y a une grosse rivalité entre Brighton et Crystal Palace.
Je t'avoue que je la connaissais pas celle-là, mais alors le derby de l'autoroute M23 là. Non mais c'est vrai.
Mais oui. Tu l'as tellement dit que je la connais maintenant.
Bonne soirée, merci Julien, à demain.
Vous aussi, bonne émission.
Merci, bisous Julien. David Lortolari également est avec nous. Il est là, mon Lorto?
Allô, Freunde, salut à tous.
Ça va ou quoi?
Très bien. Tsuruk. Une normalité en Allemagne. Le retour à l'ordinaire, messieurs. 161 jours et le Bayern est un nouveau leader.
C'est-à-dire d'où tu parles allemand, toi?
J'ai fait de l'allemand et j'adore les langues.
Ah bah putain.
Prochaine bisienne.
Ah oui, ben Ali nous fait le plaisir de nous le dire quelques mots tous les week-ends, hein, si tu faisais un peu attention, Nico Villas.
Ouais, mais moi j'ai pas les mecs. Tu sais, ils prennent l'émission, mais ils sont pas les rats de ce qu'on
raconte. Moi j'aime pas les gens, comme tu le sais. Ouais. Bon, Lorto, tu me connais.
Excitante cette année la Bundesliga.
Alors je rappelle les résultats, mon Lorto, avant, parce que Lorto aussi t'as passé un sacré samedi.
Oui.
Dortmund qui bat Stuttgart 3-1, le Bayern qui bat Wolfsburg 6-0. Pas de but entre Leipzig et Augsbourg, visiblement il s'est passé un truc là-bas. Et puis Gladbach qui s'impose 1-0 à Mayence. Mais alors quel samedi là aussi. On a le Bayern et Dortmund qui sont ex aequo à la première place. Et on a deux ex aequo derrière, c'est Leipzig et Gladbach aussi.
Oui, oui. Alors l'événement du jour, c'est le retour à la différence de but du Bayern en tête du championnat. Il y avait deux buts de retard pour le Bayern par rapport à Dortmund, et Dortmund a eu beaucoup plus de difficultés à s'imposer cet après-midi sous des trompes d'eau, hein, quasiment de la neige, mais il faut bien le dire, c'était des conditions compliquées, mais Dortmund a fini en fin de match par quand même s'imposer avec des buts notamment de Reus et d'Alcacer. Mais côté Bayern, ça a été le festival, ça a été la démonstration de force, ça a été, alors il y a tout un contexte, hein, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus longuement lundi soir dans l'after, mais vous savez que le sélectionneur avait choisi d'écarter pour la sélection messieurs Müller, Boateng et Hummels, rien que ça, et le trio était aligné aujourd'hui. Seulement, c'est seulement la troisième fois qu'ils étaient alignés ensemble cette saison, et tout le monde a brillé, tout le monde a été très très fort. Il a fallu attendre à peu près une demi-heure pour que la situation se décante. Juste un petit bémol quand même, c'est que Wolfsburg, sur ses 22 déplacements à Munich, Wolfsburg, c'est 20 défaites, 2 nuls.
Ouais, donc
faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mais le VfL était quand même une équipe qui était qui cherche à se qualifier pour une campagne européenne la saison prochaine. Ah bon. C'est quand même une grosse démonstration de force du Bayern, avec messieurs, pour citer quand même rapidement les meilleurs aujourd'hui, un très bon Serge Gnabry qui va commencer vraiment à être crédible pour la succession des Robben et Ribéry, avec délicieux James Rodriguez aussi. Et ça, je sais que ça fera plaisir à Daniel Riolo par exemple, et à beaucoup admirateur du foot en Europe. James en numéro 10, c'est vraiment magique. Il a été très bon aujourd'hui. Et puis Thomas Müller aussi, qui sera suspendu contre le Liverpool de Julien Laurence, qui a été très bon aussi, qui a eu la meilleure note possible chez nos confrères du Kicker aujourd'hui. Donc un Bayern vraiment de gala et qui commence à nouveau à bomber le torse et à dire maintenant on est en tête et on va plus lâcher la première place.
C'est vrai que c'est sexy hein, quand même, ce qui se passe en Bundesliga là aussi. Hein. Oui, cette fin de saison, elle va être dingue. Hein.
Là, c'est intéressant.
Ouais. Tu mettrais une question qui, là, mon Lorto, là, du coup, là?
Bayern, hein.
Là, il y a une vraie avance, hein, pour le duo maintenant. Alors, la mauvaise opération du jour, tu l'as cité dans le résultat, c'est RB Leipzig qui a pas réussi, qui a perdu 2 points aujourd'hui. Et Mönchengladbach qui, après des revers un peu fracassants, a réussi à se relever et à gagner 1-0. Il y a beaucoup de choses intéressantes à tous les étages en Bundesliga. Hein. Et aussi, je veux le citer ce soir, parce que bien sûr, il y aura ce match contre Manchester City en milieu de semaine aussi. Schalke qui perd encore 4-2, qui noie contre le Werder Bremen. Et il y aura, je l'annonce ce soir, hein, bien sûr déjà, il y aura un match décisif pour l'entraîneur Tedesco, à qui on a donné, pour lequel on a été très patient.
C'est quasiment miraculeux qu'ils soient encore là, lui, non?
C'est miraculeux qu'ils soient encore là. Et s'il veut se sauver, il va falloir qu'il réussisse quelque chose de grand, d'immense, contre Manchester City. On sait que le chemin est quand même très très long et très compliqué, puisque il va falloir remonter un 2-3 à domicile du match aller. Il va falloir aller en Angleterre gagner. Donc pour Tedesco, c'est mission impossible. Mais pour l'instant, il est encore en poste.
C'est vrai que la Bouli était le championnat l'année dernière, je crois, parmi les grands, où il y avait le plus de changements d'entraîneurs au cours de la saison. Et on a souvent l'image d'un championnat très stable, etc.
Non, mais tu as raison.
C'est vrai, au niveau des structures, au niveau des coachs
régulièrement. Cette saison, c'est un peu moins vrai.
Ouais. Et alors, il y a aussi, il faut que tu glisses un mot sur Lewandowski quand même, qui a, ça y est, il a battu le record de joueur étranger, de but pour un joueur étranger en Bundesliga.
195, c'était dingue. Le chiffre qu'il fallait dépasser. Maintenant, il est au-dessus. Je vous dis ça de mémoire, mais je crois qu'il en est à 17 buts cette saison en championnat, Lewandowski. Avec du Lewandowski aujourd'hui encore, c'est-à-dire le joueur capable effectivement de marquer et d'être l'avant-centre très très fort qu'on connaît, mais capable aussi d'être un peu égoïste et de frapper à côté, alors que Hummels était à 2 mètres du but, libre de tout marquage, et qu'il aurait fallu lui faire la passe. Voilà, donc un Lewandowski buteur, finisseur, mais aussi un Lewandowski imparfait. On va pas demander non plus à un joueur de marquer 5 buts à chaque match, mais il a ses petits défauts qui peuvent agacer parfois ses coéquipiers malgré tout.
En tout cas, j'aime beaucoup Lewandowski. J'ai un attaquant comme ça, je me régalerai.
Ouais, c'est vrai que c'est pas celui dont on parle le plus en ce moment, mais
j'adore. Ouais. Parce que ça, c'est un vrai avant-centre qui est capable de tout faire, de la tête, pied droit, pied gauche, qui sait garder le ballon au but, qui est capable d'éliminer, de finir, et qui est toujours au premier ou au deuxième poteau sur chaque action offensive.
C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas celui dont on parle le plus en plus en ce moment, je trouve, Lewandowski.
Non.
Il y a une certaine banalisation qui se fait autour de lui en ce moment.
À tort.
Hein?
À tort.
Ouais, ouais, c'est vrai.
On précise peut-être pour en vue de la semaine prochaine que Arjen Robben est à nouveau touché au mollet. Hein. J'avais tweeté hier soir à ce sujet, mais il est absent jusqu'à fin mars. Robben, pour une dernière saison au Bayern, ça commence à devenir quelque chose de pas terrible. Alors que Ribéry, lui, est entré en fin de match, dans le dernier tiers du match, et a livré deux ou trois passes décisives. Je sais plus si c'est deux ou trois, mais Ribéry a été vraiment brillant aussi en fin de match.
Mais d'ailleurs, on en est où avec Ribéry là, au final là? Il y a eu cette espèce d'annonce là d'un jubilé de la part de Onès, je crois, concernant le Français. C'est quoi le délire alors autour de lui là? C'est fini? C'est pas fini?
Non, alors le délire, c'est que rien n'est officiel. Les dirigeants, diplomatiquement, lui ont bien fait savoir, publiquement aussi, que comme Robben, ils souhaitaient que ça se termine. Mais pour Ribéry, rien n'a été encore fixé. Oui, alors très vraisemblablement, on va pas se mouiller beaucoup en disant qu'on lui prépare une belle sortie en fin de saison. Voilà. Après, effectivement, il a été question d'un jubilé. Ce serait tout à fait logique
au vu du
respect que le Bayern a vis-à-vis de ses anciens.
Donc il arrête.
Il arrête le Bayern ou le foot?
Non, il arrête avec le Bayern.
Oui, mais c'est pas officiel encore.
Pas le foot. Ouais.
Merci mon Lorto.
Mais de rien, et bonne nuit à tous.
Wiedersehen, mon Lorto. Samedi soir en Allemagne.
Wiedersehen.
Enfin, lui, c'est l'Allemagne versaillaise.
Mais je sais.
Bonne nuit mon Lorto.
Salut messieurs.
Ciao
David.
Je vous rappelle les résultats de la 28e journée de Ligue 1 de ce samedi. Strasbourg et Lyon ont fait match nul 2-2. Lyon qui menait 2-0 hein, dans ce match. Amiens s'est imposé 2-1 face à Nîmes. Amiens qui a terminé ce match à 10. Un partout entre Monaco et Bordeaux. Dijon qui a joué quasiment tout le match à 10 contre 11. Eh bien, a fait match nul un partout face à Reims. On a donc Lille demain qui jouera face à Saint-Etienne qui a 4 points d'avance sur Lyon. Lyon qui a 6 points d'avance sur Marseille qui jouera demain face à Nice. Tiens, je vous lis la petite déclat vite fait d'ailleurs de Balotelli dans la Provence aujourd'hui qui concerne Patrick Vieira. Je le connais comme personne depuis longtemps, on a joué ensemble et je l'aime bien comme personne, mais notre relation joueur-entraîneur n'était pas bonne, a déclaré Mario Balotelli aujourd'hui dans la Provence. Voilà.
Il aurait pu s'en passer.
Ouais, bon, il a aussi dit qu'il voulait rester à l'OM, tiens,
oui,
on avait parlé.
Ça, il aurait pu s'en passer avant le match.
De dire qu'il voulait rester à l'OM?
Non, de sa déclaration sur Vieira, surtout le comportement qu'il a eu à Nice sur les 6 premiers mois et le match qui arrive, je pense que c'était dispensable.
Et surtout ce qu'a fait Patrick Vieira.
Fais preuve de classe, mec.
Non, mais.
Même si tu marches en l'enfant.
Surtout ce qu'a fait Patrick Vieira pour lui, quoi.
Ouais.
Merci beaucoup, Ali.
Avec plaisir.
Merci, Jonathan.
Merci, mon Nico.
Merci, Jérôme Thomas. Merci, Daniel Torres. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et puis à demain. Allez.
RMC. L'affaire foot.